m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, vous connaissez la formule, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre cher et vieux pays. Damien Chalamel est là, avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Bonsoir Damien.
Bonsoir, cher Marc, chers auditeurs.
Philippe Charlez est là aussi, expert en questions énergétiques.
Bonsoir à tous.
Et Gérard Gachet, lui, il n'est pas là. Il est journaliste, ancien porte-parole des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Mais il va nous rejoindre dans quelques instants. C'est une affaire de minutes, j'en suis sûr. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyer vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes comme d'habitude les bienvenus au programme ce soir. Un petit édito, si vous le permettez. La gauche écolo anticlimatiseur est en surchauffe. Écolo signé, signé Philippe Charlez, qui est là. Les juges contre la France. Faut-il limiter d'urgence le pouvoir des juges sur cette question cruciale? Nous recevons François Guéranger, auteur de La Revanche des juges, histoire d'une reconquête qui paraît chez l'artilleur. Il est en train de s'installer, il est bien là, tout va bien. En deuxième partie, nous parlerons de Mélenchon. Mélenchon président, l'hypothèse est-elle folle ou y a-t-il un risque réel? Nous en parlerons avec toutes les politologues et notamment Gérard Gachet qui vient de nous rejoindre. Tout va bien, me voilà rassuré. Bonsoir Gérard.
Bonsoir cher Marc.
Et puis nous aurons notre habituel clin d'œil culture en fin d'émission. Tout ce que nous avons vu, lu, entendu, regardé et qui mérite de vous être recommandé, eh bien nous vous parlerons de tout ça. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité. Qu'avez-vous retenu de l'actualité de cette semaine? Allez, Philippe Charlez se jette à l'eau.
Oui, alors, c'est pas l'actualité, enfin, ce sera l'actualité de la semaine, puisque ce sera demain soir. Je vous rappelle que demain soir, il y aura donc la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal, ouais, club londonien, voilà, et Paris.
Nous sommes vendredi soir,
Paris,
donc ça aura lieu samedi soir,
donc pour les
retransmissions.
Ça aura lieu d'ailleurs à une heure inhabituelle, puisque c'est à 18h, alors que généralement, la Ligue des Champions, c'est à 20h45, ou 20, même 21h habituellement. Et donc simplement, je dirais que j'appellerai avant l'heure ce duel... Un bal renversé, puisque, a priori, c'est à Paris où le match n'a pas lieu, et surtout en cas de victoire, qu'on risque d'avoir des incidents nombreux et graves à Paris. Donc, signalons que le ministère de l'Intérieur a dépêché 22 000 policiers sur l'ensemble de la France, dont 8 000 à Paris, que les Champs-Élysées sont fermés, que tout ce qui était donc le fan club, pas fan club, fan zone, a été interdit. Enfin, je dis, où va-t-on avec ces matchs de football? On sait que mes préférés, c'est-à-dire les Norvégiens blonds aux yeux bleus, seront de sortie. J'espère
Kevin et Mathéo,
en tout cas, j'en ai eu l'expérience l'an dernier, moi qui habite dans le 8e, j'avais reçu des mortiers d'artifice sur mon balcon. J'espère que
le 8e arrondissement de Paris, je précise,
arrondissement
pour les Lyonnais par exemple.
C'est quand même désolant de voir que maintenant une finale de Coupe de Champions où ça devrait être réellement la fête, on la connaît depuis la première Ligue des Champions date, si je ne m'abuse, de 1956 avec la victoire du Real Madrid. On en est donc donc à la 60e ou 70e Ligue des Champions, et puis voilà où on en est aujourd'hui. C'est quand même déplorable, alors qu'il y aura très probablement, ça se passe à Budapest, je rappelle, et je suis sûr qu'à Budapest, il n'y aura absolument aucun événement, aucun problème.
On
donc,
on se demande
je trouve
pourquoi.
Ça assez déplorable et on commence à comprendre de moins en moins pourquoi.
Damien Chalamel, la Ligue des Champions, vous allez la regarder
Non. Non, pas tellement foot, mais je...
Ah si, moi j'aime bien ça en plus.
Mais je comprends qu'on puisse l'aimer, mais je vois que Philippe n'est pas très adepte de la cohabitation forcée. Enfin, je voulais dire du vivre ensemble, hein, parce que c'est de ça dont il s'agit.
Écoutez, quand on envoie des mortiers d'artifice sur mon balcon, c'est un drôle de vivre ensemble. Hein.
C'était pour fêter votre présence.
Voilà.
Oui, c'est ça.
Manière d'enthousiasme. Non, mais c'est dramatique.
C'est une cohabitation forcée, voilà.
Et on va voir encore une fois l'ensauvagement français dans toute sa splendeur
samedi
soir.
Je ne me fais aucune illusion.
Non. Personne ne s'en fait. Damien Chalamel.
Oui, alors moi, l'actualité qui m'a retenu,
cette semaine.
Vous savez que parmi les urgences macroniennes, y en a une, c'est l'euthanasie. Et puis, il y en a une autre qu'on a vue à l'œuvre, alors cette fois-ci en la personne d'Emmanuel Macron et du Parlement, c'est l'abrogation du code noir 1685 sur fond de demande d'indemnisation observée favorablement par Emmanuel Macron. Donc on voit qu'il y a un vrai continuum wokiste et progressiste et que finalement Emmanuel Macron est bien ce jeune vieux qui nous ressasse les poncifs des années 80. C'est le vrai fils spirituel, alors non seulement de d'Attali et d'Alain Minc, mais également de François Hollande et de Christiane Taubira. Alors je rassure nos auditeurs, quand on parle de l'abrogation du code noir et de l'indemnisation des descendants des victimes de l'esclavage, on ne dira rien, bien évidemment, la traite arabo-musulmane qui a duré 13 siècles et qui a fait 17 millions de victimes. On ne dira rien de la traite intra-africaine qui a fait 14 millions de victimes. On se concentrera bien évidemment de la traite atlantique qui a fait, elle, 11 millions
de
victimes.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le code noir exactement ?
Alors le code noir, c'est un ensemble de règles qui régissent la condition des esclaves. Ouais, et,
qui a été établi sous Colbert.
Établi sous Colbert. Alors, sous Colbert, en fait, c'est son fils, d'ailleurs, qui l'a. C'était.
Il l'a terminé,
conçu,
je crois.
Oui, ouais. Ça s'était publié au moment où c'était son fils qui succédait.
Il n'avait jamais
père.
Été abrogé.
Non, mais c'est
l'esclavage avait été aboli,
voilà.
Mais bon, le code
l'esclavage
noir,
en 1848, la traite en 1815. Il faut quand même rappeler que c'est Napoléon qui met fin à la traite, pas à l'esclavage lui-même, c'est 1848. Non, mais bien évidemment, il y a quantité de normes. Il y a au moins deux juristes à cette table qui ne sont pas spécifiquement abrogés, tout simplement parce que des normes postérieures les abrogent implicitement. Donc effectivement, le code noir n'avait plus de raison d'être à partir du moment où l'esclavage est interdit.
Est le problème de l'abroger ?
Non, mais le problème, c'est l'ironie, mais bien évidemment, c'est que il y a une dimension, il y a une portée.
Qu'il n'est plus en vigueur.
Il y a une portée, symbolique évidente.
Oui, dire qu'il était encore finalement en vigueur.
Philippe, vous n'êtes pas dupe, c'est que derrière ça, bien évidemment, il s'agit de culpabiliser une fois de plus les jeunes Européens. Et surtout, alors quand on évite de parler de la traite arabo-musulmane, comme le faisait reconnaître, comme le reconnaissait Madame Taubira, c'est qu'il ne faudrait pas faire porter le fardeau à ces jeunes adeptes du vivre ensemble, hein, nos néo-concitoyens halogènes, qui seraient eux-mêmes des descendants potentiels de trafiquants d'esclaves, ou même, par exemple, vous voyez, Monsieur Bali. Je ne veux pas écorcher son patronyme, Bayayoko, qui se flatte d'être descendant d'une ethnie qui pratiquait largement l'esclavage au Mali, les Soninké, jusqu'au début du siècle, jusqu'à ce que les Français, les méchants colonisateurs français, viennent mettre fin à ces pratiques, l'esclavage. Je finirai avec une petite citation. On a le droit de citer Voltaire sur ce plateau ?
Bien sûr.
Ah, mais c'est à propos de la traite africaine. Hein. On nous reproche ce commerce des esclaves. Un peuple qui trafique ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Voltaire. Vous m'excuserez du peu, c'est mon côté
Ça n'excuse pas l'esclavage.
Ah non, non, bien évidemment, mais c'est une pratique qui est tout à fait condamnable en soi, heureusement, j'espère bien.
Évidemment.
D'ailleurs, rappelez que ce code noir, dont les dispositions à notre époque ne peuvent que sembler horrible, le contenu, mais à l'époque, a été fait également, c'était une sorte de progrès pour empêcher les propriétaires d'esclaves de faire n'importe quoi et d'avoir un droit de vie ou de mort absolu sur leurs esclaves. Donc c'était une sorte de progrès à l'époque.
Un moindre mal.
Absolument.
On rappellera par exemple que, à la différence par exemple de la traite atlantique, la traite orientale ou arabo-musulmane, il n'y a quasiment pas de descendants pour une simple raison pratique absolument horrible, c'est que les hommes étaient castrés. De telle sorte qu'il n'y avait pas de descendants, ou très peu.
Bref, c'est encore un vieux débat, mais c'est vrai qu'il y a une facilité incroyable à aller faire l'unité de la nation, alors que le pays est dans un danger absolu, sur un code que tout le monde condamne, évidemment, y compris nous.
Bien évidemment, ce sont les arrière-pensées.
Que tout le monde condamne et qui n'est plus appliqué.
Ce qui est très gênant, bien évidemment, ce sont les arrière-pensées et l'instrumentalisation qui est derrière. Parce que quand on parle d'indemniser les descendants, on entretient un sentiment de manière tout à fait inutile et grotesque, un sentiment de culpabilité chez les hypothétiques descendants. Je ne sais pas s'il y a des béquilles autour de cette table, je pense que non. Et voilà, qui n'ont strictement rien à voir avec l'esclavage qui n'a jamais été pratiqué en métropole, ou alors peut-être celui de nos ancêtres gaulois, qui pour certains ont dû peut-être être les esclaves des Romains, mais ça se limite à ça. Quoi.
Ouais, c'est vraiment la politique facile. Gérard Gachet, allez, votre actualité de la semaine.
Moi, j'ai été frappé ces derniers jours par le nombre d'affaires qui ont mis en lumière ou en exergue, comme vous voudrez, l'ultra-violence de certains mineurs. Vous avez entendu parler de l'affaire du jeune Théo, qu'on a retrouvé étranglé à 11 ans. Et c'était une querelle qui portait avec deux de ses camarades sur du matériel de pêche que les uns auraient volé aux autres. Enfin, de quelques dizaines d'euros, a précisé le procureur. Et c'est donc un garçon de 16 ans et une fille de 15 ans qui ont été mis en examen pour meurtre sur mineur. En Seine-et-Marne, un jeune de 17 ans a été poignardé à mort dans un camping pour avoir refusé une demande d'amis sur un réseau social. Quelqu'un qui voulait le liker, être son ami, il avait refusé. Son meurtrier est un autre adolescent du même âge, 17 ans, qui a été placé lui aussi en détention provisoire. À Paris, un jeune garçon de 14 ans a été tué et sa mère blessée par le fils aîné, donc le frère aîné du jeune garçon de 14 ans, le fils aîné qui avait 16 ans, qui souffrait apparemment de troubles psychiatriques. Et ce ne sont pas des cas isolés, aussi dramatiques soient-ils, puisque on sait que l'an dernier, 121 mineurs ont été mis en cause pour des homicides et 464 pour des tentatives d'homicide. C'est quand même deux fois plus qu'il y a 10 ans. Donc ça montre une progression de l'ultra-violence.
Ça montre que l'ensauvagement touche les mineurs de manière...
D'ailleurs, on peut renvoyer sur les excellents ouvrages du docteur Maurice Berger, le pédopsychiatre très connu, qui a alerté depuis des années sur la montée de ce phénomène.
Absolument. C'est effrayant, mais logique. Hein, dans un moment où tout le monde, où la société tout entière s'en sauvage, eh bien, les mineurs ne sont pas dans un caisson étanche et ils le subissent aussi.
En plus, ils subissent... les images qu'ils ont sur les réseaux sociaux ou sur certaines chaînes de télévision, etc., ou auxquelles ils ont accès. Donc, effectivement, ils ont des influences qui exacerbent chez eux des pulsions qui, peut-être, ne se seraient pas extériorisées s'il n'y avait pas eu ces voisinages.
Mais c'est très frappant. C'est vrai que c'est assez effrayant et s'en dit long sur notre société. Comment en est-on arrivé là? C'est toujours la même question. On connaît tous la réponse qui est complexe, hein, d'ailleurs. Mais bon. Moi, j'avais une petite histoire. Vous savez que il y a quelques années, les laïcars dénonçaient les cloches des églises qui les dérangeaient pendant qu'ils faisaient la sieste, parce que ça sonnait leur gélus, ils n'aimaient pas ça. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout, hein, puisque le maire de Brie-sur-Marne, je ne sais pas si vous avez vu ça, a dénoncé, lui, des prières musulmanes qui sont diffusées par haut-parleurs et qui ont été entendues dans une grande partie de la ville. Donc il a saisi la préfecture au nom du respect de la liberté du culte et de la tranquillité des habitants.
D'après ce que j'ai entendu dire, ce ne sont pas des prières, ce sont des appels à la prière.
Alors peut-être des appels à la prière.
D'après ce que j'ai entendu.
Je me fie à votre précision, mon cher Philippe Charlez. En tout cas, on a eu à peu près la même chose à Nantes. Vous voyez, la devise de Brie-sur-Marne, c'est « moult vieille que Paris ». C'est-à-dire beaucoup plus vieux que Paris. Eh bien,
Eh bien, curieusement, on n'a pas entendu nos laïcards défendre cette vieille formule et s'indigner de ces appels à la prière qu'on a entendus à Bry-sur-Marne. C'est toujours pareil, ils se scandalisent volontiers des cloches, mais les appels à la prière, finalement, ça passe crème, comme disent les jeunes. Non.
Mais alors, ce qui est amusant, c'est qu'on rappellera que nos auditeurs le savent, c'est que la loi de 1905 régit de manière assez précise les manifestations du fait cultuel, que sont les processions et les cloches. Alors bien évidemment, en 1905, pas de question d'islam, puisque l'islam n'a jamais fait partie du paysage culturel.
Justement, la loi de 1905, si vous la connaissez un peu, cher Damien, est-ce qu'elle pourrait interdire des appels à la prière ou est-ce qu'au contraire, elle les protégera ?
Non, parce qu'elle sera inapplicable. Parce qu'en réalité, elle n'envisage le culte que du point de vue des trois cultes connus alors,
c'est-à-dire protestants et catholiques.
Voilà, dans l'ordre catholique, protestant et juif. Voilà. Donc ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, dans les pays qui sont concordataires, enfin les régions en Alsace qui sont encore sous régime concordataire, on n'applique pas justement. Les dispositions de la loi 1905 en les transposant aux musulmans. On reste fidèle à la volonté du législateur qui ne s'adressait qu'aux religions alors connues, les religions indigènes.
Reste à savoir combien de temps ça tiendra. Non.
Oui, mais écoutez, dans un pays très libéral, en Angleterre, ce sont des pratiques très connues, hein, les appels à la prière. Hein. J'en ai même vu apparemment à Manhattan ou dans les banlieues de Manhattan. Maintenant qu'on a un maire complaisant, en France, à mon avis, ça relève plus du trouble à l'ordre public qu'autre chose.
Allez, édito. C'est l'heure de l'édito et je me tourne vers Philippe Charlez qui va nous dire que la gauche écolo anticlimatiseur est un peu en surchauffe.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Philippe Charlez, on va parler du temps et de nos amis écologistes. Les canicules arrivent de plus en plus tôt, elles sont de plus en plus intenses avec des températures inédites qui frôlent les 40 degrés en ce moment au milieu du mois de mai. Là on est en studio, il fait plus frais, mais dehors c'est insoutenable.
Oui, ça va.
Comment faire face à ce réchauffement climatique qui nous affecte de plus en plus tôt?
Alors d'abord vous avez bien dit réchauffement climatique. Je n'aime pas qu'on utilise le mot dérèglement climatique, car jusqu'à présent, il n'y a pas de règlement climatique. Alors, il est en marche et personne ne peut le nier, avec effectivement un nombre croissant, notamment de vagues de chaleur qui arrivent de plus en plus tôt. Rappelons que la lutte contre le réchauffement climatique se décline en deux grands leviers. Il y a d'un côté ce qu'on appelle l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre, qui est un peu nouveau, et d'autre part ce que l'homme a toujours fait face au climat, c'est-à-dire l'adaptation. Et alors que l'atténuation est mondiale et joue sur les très longs termes, nous verrons les effets de la décarbonation elle-même, qui est très lente au mieux dans quelques dizaines d'années. Les mesures d'adaptation sont beaucoup plus rapides et surtout elles sont territoriales. Un pays et une région peuvent s'adapter à un autre non. Le climat variant d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre, les mesures d'adaptation seront par ailleurs très différentes d'un territoire à l'autre. Et pourtant, nous injectons aujourd'hui 95% du financement dans l'atténuation et seulement 5% dans l'adaptation, une aberration qu'il faudrait à tout prix corriger.
Oui, c'est frappant la différence entre les deux. Comment s'adapter aux canicules, Philippe Charlez? Qu'on peut faire?
Je vais vous dire, c'est une lapalissade, mais puisque la température est trop haute, il faut essayer de la baisser. Alors, vous avez un premier levier qui est assez efficace pour baisser la température, c'est la végétation et l'eau qui font baisser la température, alors que le béton et l'asphalte, au contraire, qui absorbent la chaleur, font monter la température. Alors, je ne sais pas, mon cher Marc, si vous avez déjà essayé de faire une petite pause dans le bois de Boulogne ou dans le bois de Vincennes au cours de ces journées caniculaires, on enregistre parfois des différences de température qui peuvent atteindre 6 degrés. C'est quand même absolument considérable. Première technique, c'est donc de désartificialiser les sols des villes pour les végétaliser tout en rajoutant des surfaces d'eau, voire par exemple des brumisateurs. Et puis la seconde, qui est la plus évidente, c'est évidemment la climatisation. Et sur ce point, la France est très en retard par rapport à ses voisins européens, avec seulement 25% de couverture, alors qu'en Italie, c'est 50%, en Espagne, 40%, aux États-Unis, d'ailleurs, pratiquement 100%.
Alors, quand vous parlez de couverture, Philippe Charles, c'est quoi?
La couverture, ça veut dire le nombre de bâtiments ou la surface habitable qui est climatisée. Donc, il y a un quart de la surface qui est climatisée.
Alors, tout cela est très logique, mais les écologistes sont vent debout contre la climatisation, justement. Oui. Alors, pourquoi? Je sens que vous allez leur tailler un short.
Oui, parce que d'abord, ils commencent par en contester l'usage en la considérant comme coûteuse et surtout polluante. Ce qui est tout à fait faux, et ça montre cette opposition en premier lieu, leur capacité inégalée à ignorer le progrès technologique en confondant notamment les monstres frigorifiques de nos parents, hein, qui défiguraient l'ensemble des façades, notamment dans le sud de la France, aux pompes à chaleur réversibles actuelles. C'est-à-dire que les pompes à chaleur qu'on nous encourage d'acheter, elles sont réversibles, c'est-à-dire que globalement, suivant le mode de circulation, vous pouvez générer soit du chaud, soit du froid, donc du chaud l'hiver et du froid l'été, donc pourquoi s'en priver?
Bah oui, en effet, est-ce que vous laissez entendre, Philippe Charles, que la raison serait finalement idéologique?
Mais oui, parce que vous avez tout de suite deviné, l'opposition des écologistes est surtout idéologique et se résume au mot égalitarisme. Tout le monde n'ayant pas les moyens d'installer une climatisation, cette dernière est finalement le privilège d'une classe dominante. Dans leur vision égalitaire et néo-marxiste du monde, il est insupportable que certains puissent se climatiser et d'autres pas. Ainsi, en cas de canicule, plutôt que d'installer la climatisation dans les écoles, la députée Sandrine Rousseau, qui n'en rate jamais une et revendique, je vous le rappelle, le droit à la paresse, préfère fermer les classes. Et la chef de file des écologistes, Marine Tondelier, a proposé, elle, d'instaurer un congé de 5 jours par an pour protéger de la canicule les travailleurs particulièrement exposés. Une façon de creuser un peu plus la dette française. Sous-entendu que dans certaines professions et depuis longtemps, quand il y a des canicules ou du froid, il y a ce qu'on appelle du chômage technique. Ça n'est absolument pas nouveau. Donc pour ma part, moi je supporte personnellement l'idée d'un grand plan climatisation permettant d'accroître la couverture à 100% dans certaines institutions publiques, notamment les écoles, les hôpitaux et les EHPAD, ainsi que de favoriser aussi peut-être avec certaines subventions l'installation de la climatisation dans le logement des personnes âgées. Je vous rappelle que par manque de climatisation lors des grandes chaleurs de 2003, si vous vous en rappelez, on estime la mortalité des personnes âgées à environ 15 000 personnes. On sait qu'une climatisation supérieure aurait permis d'épargner 15 000 vies. Ça n'est pas neutre.
Ouais, très intéressant. Merci Philippe Charles. Question, hein. Est-ce que les écolos devraient être contre le chauffage de l'hiver parce qu'il réchauffe la planète, et pour la clim l'été, parce que ça la refroidit?
Non, ça ne refroidit. Alors non, ça c'est faux par contre.
Ça c'est faux.
C'est-à-dire que globalement,
c'est une
quand
question,
vous.
Hein,
oui, au contraire. Quand vous refroidissez l'intérieur, vous réchauffez l'extérieur, donc vous rejetez de la chaleur, une pompe à chaleur en climatisation va rejeter du chaud à l'extérieur. Oui, mais c'est du chaud qui, par inertie, se dissout dans la chaleur extérieure et qui donc ne joue pas de rôle, bien évidemment, sur l'accroissement de la température. De la température de la planète. Donc ce sont des arguments qui ne tiennent absolument pas sur le plan technique.
Bon, c'est pas les climatiseurs qui font qui élargissent le désert. Non.
Non,
pas du tout.
Bon. Il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est que vous savez que dans la doxa en la matière climatique, on nous cesse de nous répéter cette espèce de mantra, ne pas confondre météo et climat.
Oui, c'est vrai.
Et non, mais j'entends bien. Et justement, quand on dit, quand on constate qu'il fait très froid à certaines périodes inhabituelles de l'année, on vous rétorque, non, mais vous confondez, et qu'on se dit, ah bah, il est beau le réchauffement climatique, et qu'on nous rétorque qu'il ne faut pas confondre météo et climat, est-ce qu'on pourrait pas dire exactement la même chose actuellement?
Non, alors je vous dis tout de suite, j'ai regardé le sujet d'assez près. Le nombre de vagues de chaleur est en croissance absolument exponentielle depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs l'expression du réchauffement climatique, c'est essentiellement l'augmentation des vagues de chaleur. Contrairement, par exemple, ce qui a inondation ou feu de forêt, on ne voit pas d'augmentation extrêmement notable. Il n'y a pas de... Même les feux de forêt, les surfaces sont même, mais pour des raisons d'aménagement, de meilleur aménagement du territoire, diminuées depuis une vingtaine d'années. Donc ce qu'on peut dire, alors pour répondre à votre question, donc la différence entre climat et météo, c'est que le climat, c'est des grands espaces et des longues périodes de temps, alors que la météo, c'est des petits espaces et c'est sur le pas de votre porte et dans le jour ou dans la semaine. Cela étant, le climat modifiant les pressions et les températures au long terme a tendance à augmenter. Il y avait bien sûr des événements météo extrêmes avant le réchauffement climatique, mais un certain nombre d'événements extrêmes comme les canicules a fortement augmenté et bien dû au réchauffement climatique. Ça, je n'ai pas de doute de ce côté-là.
Voilà, merveilleux d'avoir l'expertise de notre ami Philippe Charlaise qui...
Je sens quand même que Damien n'est pas complètement d'accord avec moi.
Non, mais on ne va pas lancer le débat sur le climat, surtout pas. Donc Damien Chalamel, on va passer à autre chose. Je voulais juste vous donner ce petit mot d'un auditeur sur le code noir. Le code noir était, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Gérard Gaché, un progrès parce qu'il mettait fin au pouvoir arbitraire à l'époque. C'était considéré que parce qu'il mettait fin au pouvoir arbitraire des maîtres, y compris en interdisant la peine de mort par les maîtres et certaines punitions corporelles les plus infamantes. Le code noir régissait principalement par ailleurs le commerce des esclaves, bien sûr, ce qui n'empêchait pas ce code noir d'être évidemment complètement insoutenable. Et il a été abrogé depuis longtemps. Son application a été abrogée depuis longtemps et le code lui-même l'a été il y a quelques jours. Nous en avons parlé. Allez, à venir, nous parlerons tout à l'heure de Mélenchon président. Est-ce que c'est une hypothèse folle ou est-ce qu'il y a un risque réel? Ça sera en deuxième partie d'émission. Nous aurons évidemment notre clin d'œil culture, tout ce que nous avons vu, lu, entendu et qu'on vous recommande ou au contraire dont on essaiera de vous dissuader, je ne sais pas. Mais d'abord, les juges contre la France, faut-il limiter d'urgence le pouvoir des juges?
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Damien Chalamel, Philippe Charlaise et Gérard Gaché. Avec sa robe et sa bavette, le juge avait jusqu'ici fière allure sous les hauts plafonds des salles d'audience. Que se passe-t-il pour que cette figure prestigieuse et indispensable à la vie en société soit à ce point attaqué. Voilà quelques jours, la décision des juges du Conseil constitutionnel de rétablir les fameuses zones à faible émission, les ZFE, a ulcéré les Français. C'est lui qui a presque totalement désossé la loi immigration en retirant 34 articles c'est lui aussi qui a retoqué la possibilité de placer en rétention des demandeurs d'asile. C'est encore lui qui, en août 2025, a écarté l'allongement de la rétention des étrangers dangereux. Les juges ordinaires sont accusés de laxisme chaque jour ou presque, tant la faiblesse des peines infligées semble décalée face à l'ampleur et à la dérive de l'ensauvagement. Ce serait trop long de citer les exemples qui tombent chaque jour ou presque. Le débat est très vif en ce moment. Les juges ont-ils vraiment tous les droits? C'est la question que pose Béatrice Brugère, la secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, dans un livre qui paraît ces jours-ci aux éditions de l'Observatoire. Elle s'inquiète du divorce profond entre le peuple et les juges. Nous allons en parler avec vous, François Guéranger. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, vous êtes docteur en droit et vous avez été magistrat, avocat à la Cour, vous avez travaillé en cabinet ministériel, vous enseignez à la finance internationale à Dauphine et vous signez ce livre, La revanche des juges, histoire d'une reconquête, qui paraît chez L'Artilleur, excellent éditeur. Livre complet, précis, documenté et qui est aussi une forme de réquisitoire, il faut bien le dire. On va parler de la grande dérive de la justice française avec vous. Mais d'abord, première question, comment est-ce que votre parcours, juge, avocat, enseignant, cabinet ministériel, comment est-ce qu'on fait pour faire autant de choses dans une seule vie?
J'ai commencé à un âge raisonnable et puis j'ai essayé de terminer plus tard encore, à un âge raisonnable aussi. Et dans l'intervalle, les années s'accumulent et avec la curiosité d'esprit que l'on peut avoir, eh bien, on peut exercer divers métiers.
J'avais une petite, si je peux.
Bien sûr.
Parce que moi, question je suis ingénieur. Je me demandais s'il était plus facile de devenir juge en étant ingénieur ou de devenir ingénieur en étant juge.
C'est une question
c'est
difficile.
Pas la même... Je pense qu'il est plus facile de devenir juge en étant ingénieur.
Ah, voilà, mais non, que... on est d'accord, c'est ce que je voulais.
D'accord.
Et vous dites hein, que votre expérience personnelle, évidemment, a beaucoup nourri ce livre. Hein. Elle m'a conduit, vous écrivez, comme avocat ou comme magistrat, à me tenir d'un côté ou de l'autre de la barre du tribunal.
C'est exact. Le magistrat est assis et l'avocat est debout. Donc, c'est plus confortable d'être magistrat. Je suis toujours magistrat, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vais les défendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques phrases un peu... dur à l'égard des juges.
Ah ben, vous en avez vous-même des phrases assez dures hein, dans votre livre.
J'en ai, mais il faut quand même... Alors, je voudrais rappeler dès le début que la justice est tout à fait indispensable. Un pays qui n'a pas de justice, et en particulier une démocratie qui n'a pas de justice, n'est pas une démocratie. Elle tourne dans une dérive tout à fait inacceptable. Elle est encore plus nécessaire aujourd'hui, me semble-t-il. Je pense qu'il faut la défendre encore plus aujourd'hui quand on voit les dérives que l'on constate avec ce qu'on peut appeler la justice médiatique. Sans que l'on prenne parti pour, vous connaissez les affaires actuelles, hein, notamment acteurs de cinéma ou chanteurs ou autres, sans qu'il soit question de prendre parti pour l'un pour l'autre. Mais le
vous
fait
parlez
que...
de l'affaire Patrick Bruel,
il y en a eu d'autres avant.
Oui, il y en a eu d'autres.
Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que dès qu'il y a un soupçon, il y a une rumeur, à ce moment-là, la justice médiatique se déchaîne et la personne en question est condamnée tout de suite sans qu'il y ait procès. Je parle de procès médiatique, hein, même de procès médiatique, sans qu'il y ait de procès, sans qu'il y ait d'avocat, sans qu'il y ait aucune procédure qui permette de garantir hein, au moins ce que peut défendre l'accusé. Ça, c'est ce que nous permet notre justice, et je pense que c'est important de dire notre justice, parce qu'elle garantit pour tout le monde une procédure qui permet à l'accusé ou au prévenu de se défendre avec un avocat. Et s'il est coupable, s'il est reconnu coupable de par le dossier qui a été instruit, eh bien, il est condamné, mais avec les garanties qui sont nécessaires. Et donc... même si, et je vais en parler un peu après, même si on peut reprocher un certain nombre de choses au fonctionnement de la justice actuellement...
Oui, on va en parler.
Mais il faut vraiment se dire que si on n'avait pas notre justice, d'une part, ça ne serait pas une démocratie, d'autre part, être livré à la justice médiatique, ce ne serait vraiment pas une bonne idée.
Alors, c'est vrai que personne ne propose la suppression de la justice.
C'est une question de concurrence.
C'est évident qu'elle a un rôle à jouer.
Mais
puisque vous avez démarré sur ce plan-là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'on confond la justice en elle-même, si vous voulez, et le droit des médias d'informer les gens. Un média responsable a le droit de dire ce qui se passe, de dénoncer des faits, de les donner, de les livrer au public. Il le fait dans des règles qui sont précises. Il doit normalement recueillir la réponse de la personne qui est incriminée. C'est normal, c'est un devoir du journaliste. Ou au moins de lui poser la question. Et ensuite, la justice fait un travail, mais elle juge sur un autre plan. Et par exemple, elle peut considérer que les faits sont proscrits. Ça ne fait pas l'innocence morale de la personnalité. Et c'est au rôle de la presse et aux médias, par exemple, de dire que telle personne... a pu déraper, comme on dit aujourd'hui, de telle ou telle manière, et même si la justice le condamne ou ne le condamne pas. Non,
il n'y a pas deux plans.
Voilà.
Si, tout à fait.
Médiatique
alors, je souscris tout à fait
judiciaire.
À votre présentation des choses.
Bon.
Il y a d'une part le métier des médias, d'autre part le métier de la justice. Simplement, il se trouve que, par la force des choses, et peut-être indépendamment de ce que font les médias, et bien, les conséquences sont qu'il y a une sorte de haro qui est prononcé à l'endroit de telle ou telle personne parce qu'elle a été mise en cause. Ça, c'est une conséquence, mais on ne peut pas dire que ce soit la faute directe des médias, certainement pas.
C'est ça,
ils font leur travail, il n'y a aucun doute.
Le devoir d'informer.
Tout à fait.
Je passe la parole à un grand journaliste, Gérard Gachet, ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles.
Oui, merci. C'est effectivement le cas, mais quand même, d'abord, quand tu disais tout à l'heure... quelques plaintes, quelques rumeurs qui suffisent... Là, on est quand même, dans un certain nombre de cas, sur des dizaines de plaintes qui ont été déposées, actuellement en cours d'instruction, ce qui ne remplace pas, évidemment, un véritable jugement rendu par la justice, mais il y a une accumulation qui fait que ça devient, au bout d'un moment, un petit peu difficile à soutenir. On a eu l'affaire Depardieu, on a maintenant l'affaire Patrick Bruel. C'est sûr que pour des gens qui ont une activité publique en plus, donc qui sont en contact avec le public, qui sont par leur métier justement au premier plan, souvent par rapport aux gens qui s'inquiètent de ces dérives, de ce qui se passe, c'est difficilement supportable pour eux, mais c'est vrai que c'est insupportable aussi pour des gens de les voir sur scène le soir, peut-être pour un certain nombre de gens. Donc moi, je ne fais pas partie des mouvements MeToo, bien entendu, mais on peut comprendre quand même que ça devienne des positions difficiles à assumer pour les gens qui sont mis en cause de cette façon.
C'est un débat, en tout cas, ancien et toujours très, très vivace à chaque fois qu'une affaire ressort de ce type-là. Damien Chalamel.
Non, mais alors, moi, ce qui m'a... Je vais parler du livre, ou plus de ce que
je... Non, mais sur ce point précis, et puis on va parler du livre.
Non, mais sur ce point précis, c'est-à-dire qu'il y a effectivement peut-être un emballement médiatique, encore plus à la faveur de l'impact des réseaux sociaux, qui fait que... Mais c'est vieux comme le monde, je veux dire, de mettre au pilori telle ou telle figure, et de substituer à la justice des hommes...
La justice populaire.
Une espèce de parodie de justice... oui, sans garantie des droits, etc. Alors, bien évidemment, ça n'est pas... Les médias ne sont pas... Bien évidemment, mais vous comprenez
les
bien...
Les médias, ils ont le devoir d'informer.
Oui, mais comprenez bien qu'il y a...
J'ai l'impression parfois que certains juristes mettre une chape de plomb sur les médias.
Non. Écoutez, on assiste quand même à des... Bah, écoutez, je pourrais vous parler de l'affaire Baudis.
Et de quantité d'eau, de dramatique.
Brûlée en Artois, les années 70.
L'affaire Dutroux.
Ou l'affaire Dutroux aussi, où on a sali des gens qui étaient... Voilà, bon, voilà. Il y a quand même l'emballement médiatique sur un certain nombre d'affaires, et à mesure... Enfin, et surtout en fonction des causes. Parce que là, par exemple, la cause des femmes, bon, ben voilà. Bon, c'est une cause qui a beaucoup d'écho à notre époque. Bon, ben, je partage tout à fait l'avis de notre invité. C'est-à-dire que parfois, on est très gêné, et c'est vrai qu'il y a un discours, alors on va y venir, hein, de fond de critique des juges. Moi, j'ai vraiment apprécié la finesse de l'analyse de notre invité. Mais il s'adresse surtout aux grands juges, il va nous en parler un peu plus. Ce discours critique, il se couple aussi. Alors là où je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'entends parfois, et pas dans la bouche de notre invité, bien sûr, c'est la critique de la magistrature de manière générale, de la politisation des magistrats au quotidien.
Français sont de plus en plus nombreux à se sentir trahis quand ils voient les peines extrêmement légères. Mais bon, on n'est pas sur le fond du débat.
Mais alors là, je les invite.
Extrêmement légères qui sont données à des gens
à lire les passages
qui font des choses très graves.
Extrêmement éclairants de notre invité sur ce que c'est que l'acte de juger. Vous citez Chaim Perelman notamment, c'est un auteur, sur la finesse et la difficulté aussi, et à la même fois la liberté que ça représente d'interpréter et d'appliquer la loi. Et la justice, en dernière instance, elle est humaine. Moi, je préfère encore qu'elle soit humaine plutôt que d'être remplacée par l'intelligence artificielle.
Alors justement, notre invité.
Je veux d'abord vous remercier d'avoir souligné ce chapitre
de
5
la justice.
Que j'ai voulu insérer parce que je me suis aperçu en discutant avec beaucoup de gens que très peu de personnes savent comment travaille un juge.
Et François Guéranger.
Et ce qu'il est lui-même, c'est un humain qui est soumis à ses idées, à ses préjugés comme tout le monde, sachant qu'il essaie toujours, et c'est ça qui fait l'honneur du juge, c'est de lutter contre les préjugés, contre des influences. Mais je suis content que vous le souligniez, ce chapitre, parce que ça permet de savoir comment ça marche exactement. Et donc, effectivement, c'est important, qui montre que d'une part, le juge ne juge pas n'importe comment, mais en même temps qu'il a une liberté énorme, absolument énorme, parce qu'on dit souvent, le juge ne fait qu'appliquer la loi. Oui, on
entend ça très souvent.
Mais on entend tout de même dans la bouche de très hauts magistrats. Mais c'est beaucoup trop modeste. Parce que la première chose à faire, la première chose quand on a un dossier, il y a des faits. La première chose, le premier contact, c'est avec les faits. Il faut savoir s'ils existent ou pas, ces faits. Ensuite, il faut les qualifier. De quoi s'agit-il ? Un exemple que je cite souvent, c'est de dire, il y a M. A qui demande de l'argent à M. B. C'est un fait. Bon. Mm. Mais monsieur A dit, j'ai prêté l'argent à monsieur B. Monsieur B dit, ah non, non, monsieur A me l'a donné. Comment fait-on ? Le juge, il est censé caractériser les faits et dire, ben, c'est un prêt ou c'est un don. Mm. À partir du moment où il a caractérisé les faits, ben, il va chercher dans la loi ou dans divers textes, quel est le texte qu'il va appliquer, soit au prêt, soit au don. Donc on voit bien que lorsqu'on dit appliquer la loi, c'est bien postérieur à la première démarche qui est essentielle. C'est là que le pouvoir est le plus important, c'est dans la caractérisation des faits. Ensuite, c'est l'utilisation de tel ou tel texte. Mais tel ou tel texte, on peut aussi l'interpréter et on peut aussi le moduler. Mmh. Donc la marge de manœuvre du juge est très importante, mais c'est aussi un humain qui tâche de faire ce qu'il peut avec la meilleure volonté du monde.
Mais alors, il faut quand même, à ce stade, c'est très intéressant, parce que c'est un débat qu'on a dans les familles et un peu partout, et beaucoup sur les chaînes info et ailleurs, le laxisme judiciaire. Alors, il existe ou non ?
Alors,
pardon pour la brutalité de la question.
Pas du tout. certains vous diront... Vous savez, je vais souvent... Je suis souvent au tribunal en train de juger ou de participer à des correctionnels où on est trois juges et puis on voit bien des cas et des cas. Parce que vous savez qu'une audience, on la commence à 14h, on la termine à 1h du matin, après avoir vu 10 ou 12 dossiers chaque fois. Donc, des cas, j'en ai vu beaucoup. On peut dire, dans certains cas, ou en tout cas, ceux qui écoutent peuvent dire c'est laxiste. D'autres vont dire c'est au contraire sévère. D'autres vont dire, c'est bien jugé. D'abord, ils n'ont pas le dossier. Et déjà, quand on a le dossier, ce n'est pas très simple de juger. Et donc, quand on n'a pas le dossier, c'est encore plus compliqué. Cela dit, je ne veux pas évacuer la question pour autant. Mais dans la mesure où les uns pensent que c'est laxiste, l'autre ne le sont pas, il me semble qu'il y aurait une démarche à faire et qui est peut-être lourde, mais qui est essentielle, c'est d'évaluer la réponse pénale. Et pour cela, ça serait de mettre sur pied quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire un appareil statistique qui permette de voir quelle est la réponse pénale globalement. Mais d'une part, il y a le délit ou le crime ou l'infraction. Ensuite, le jugement lui-même, celui qui est prononcé par le tribunal. Ensuite, le dossier, il ne s'arrête pas là. Il va le plus souvent chez un juge d'application des peines et qui vit. Le dossier vit tout au long de la durée de la sanction. Pendant ce temps-là, il peut y avoir une demande de liberté qui peut être acceptée ou pas. Il peut y avoir également une réduction de peine, une libération conditionnelle. Et à la fin, quand on regarde ce qu'a fait effectivement ce cas et la sanction exacte de ce qu'a subi le condamné, eh bien c'est très souvent très différent de ce qui a été jugé par le tribunal. D'où l'intérêt, si on veut vraiment pouvoir dire si c'est laxiste ou pas laxiste, d'avoir un appareil statistique qui permette d'avoir toutes ces statistiques-là et de dire, tiens, quand même pour, je ne sais pas moi, une agression, il n'y a eu que 2 mois avec sursis, ou au contraire, il y a eu 5 ans. Donc, c'est ça qui manque. Mmh. Voilà, pour répondre vraiment à votre question, j'attends d'avoir l'appareil statistique.
Est-ce que j'ai engagé. Pour essayer de réduire un peu ces différences que l'on constate dans les peines prononcées, est-ce que vous êtes favorable ou pas au système des peines planchers, qui restent toujours à disposition du juge, il n'est pas obligé de les appliquer, mais des peines planchers en fonction du type de délit rencontré ?
À titre personnel, oui, je pense que ça serait une bonne mesure. Maintenant, il faut voir la faisabilité. Il y a toujours une chose que l'on voit assez rarement lorsqu'il y a des propositions de mesures, c'est de voir les conséquences. Si on fait une sorte d'étude de conséquences. Et là, j'ai un autre point dont je voulais parler, et c'était dans les années 2000, à peu près, il y avait un premier président de la Cour de cassation qui avait eu une très bonne idée, à mon sens, qui était de dire quelles sont les conséquences économiques, sociales, sociétales, éventuellement, d'une décision judiciaire. Alors, évidemment, il s'agit des décisions judiciaires importantes. Il ne s'agit pas de voir si c'est un loyer impayé ou autre. Et il y a eu, à cette époque-là, ça durait 2-3 ans, des réunions, des commissions, et c'était particulièrement intéressant. Quelle est la conséquence de la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation dans tel cas ? Quelles sont les conséquences ? Alors, ça a duré quelques années, et puis président de la Cour de cassation, a été envoyé au Conseil constitutionnel. Et comme vous savez, au Conseil constitutionnel, on n'a pas le droit de parler. Et donc, le dossier s'est arrêté là. Mais pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Je vous donne un exemple que j'ai lu dans la presse, d'ailleurs. Vous connaissez la Cour nationale du droit d'asile.
Oui,
lorsque
la CNDA.
Lorsque la CNDA dit, eh bien, tous les ressortissants... non, plus exactement, tel ressortissant de la bande de Gaza peut être considéré comme un réfugié. Très bien, statut sur telle personne. Moi, je veux bien, je ne remets pas en cause son jugement. Simplement, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles sont les conséquences si on étendait ce jugement à tout le monde. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait 2 millions de personnes qui viendraient s'établir en France avec le régime de réfugiés, qui est particulièrement favorable? Quelles sont les conséquences économiques et sociales? À partir du moment où on connaît les conséquences économiques et sociales, à ce moment-là, on va décider, démocratiquement, si vous voulez, d'accepter cette décision ou de ne pas l'accepter.
Ouais, tu as raison, il n'y a jamais d'étude d'impact. C'est ce qu'on appelle une étude d'impact.
C'est exactement ça. C'est l'étude d'impact des décisions, des grandes décisions juridictionnelles. Et ça me paraît absolument essentiel.
François Guéranger, je rappelle que vous êtes avocat, magistrat, que vous avez écrit tout récemment un livre passionnant, La Revanche des juges, histoire d'une reconquête qui paraît chez l'artilleur. Je voulais, est-ce qu'il y a une question? Non, alors je voulais simplement basculer sur une partie très importante de votre livre qui était historique. Voilà. Parce que vous remontez assez loin, vous dites que nous sommes arrivés à la croisée des chemins, la situation est tout aussi bloquée qu'en 1789, dites-vous, l'État est tout aussi en faillite, certains juges dont l'emprise sur le pouvoir politique est encore plus forte qu'en 1789 empêchent les réformes. Alors après ça, vous allez me dire que je vous accuse d'être critique envers la magistrature, mais,
c'est un
mais je sais lire.
C'est un constat. Non, alors c'est un d'abord, constat. Vous avez
c'est
dit...
Quand même... Oui, c'est quand même extraordinaire. Vous considérez qu'on est vraiment dans une situation assez proche de ce point de vue du blocage entre le politique et la magistrature de ce qu'on pouvait connaître en 1789 qui a amené à la Révolution française quand même.
Je vais rappeler les faits, et puis on verra bien. D'abord, quelque chose que j'ai fait dans le livre, j'ai fabriqué un indicateur du pouvoir. À partir d'un certain nombre de critères sur la compétence du juge, des parlements à l'époque. Une parenthèse au départ, vous aviez souligné que je faisais une distinction entre les grands juges et les autres. Effectivement, ça me paraît tout à fait essentiel. Ce que j'appelle les grands juges, ce sont ceux qui ont une influence importante sur la vie de la société. C'est la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, donc la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État et la Cour de cassation. Ces grands juges sont tout à fait reliés entre eux, ils font une amicale, j'ai mis cartel.
Un dialogue.
Ça s'appelle pudiquement un dialogue, c'est une amicale, et il faut vraiment les distinguer des autres juges, ceux des tribunaux de base, hein, ou même des cours d'appel, qui, eux, font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc, je parle de ces fameux...
Les grands juges fabriquent un peu la norme judiciaire, on peut dire ça,
Tout à fait. Enfin, ils y participent. Ils y participent de manière tout à fait importante. Et lorsque... donc, j'ai fait un indicateur et j'ai trouvé avec cet indicateur que en 1789, le pouvoir du juge était de l'ordre de 60%, alors qu'aujourd'hui, il est de 85%. Vous voyez, bon, il vaut ce qu'il vaut, l'indicateur, mais il permet quand même de fixer les idées. Pour revenir à 1789, après une longue période où les juges, c'est-à-dire le Parlement, ont essayé de prendre le pouvoir vis-à-vis du pouvoir politique, c'est-à-dire du roi, eh bien, on est arrivé à cette période-là où, si on prend les conditions financières, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas très éloignées d'aujourd'hui. Par exemple, l'endettement de l'État était de 80% de ce qu'on appelle le PIB, sous Louis XVI, il est aujourd'hui de 110 ou 120%, 115%, donc vous voyez. Il y avait un endettement important. Et il y a eu des tentatives de réforme. Le pouvoir royal n'était pas du tout inerte. Et il y a eu des ministres remarquables qui ont essayé de faire des réformes, dont une qui était une réforme fiscale, en mettant...
C'était qui Turgot, notamment, hein, c'est ça?
Il y a Turgot, il y a
Mopou. Necker.
Mopou également. Ouais. Alors lui, c'était la suppression des... Mais Necker, le dernier, effectivement. Oui, tout à fait. Ce sont des ministres de très haut niveau, hein, que l'on peut... On vit à cette époque-là.
Necker était suisse, d'ailleurs.
Il était, tout à fait. Et puis, Et donc,
intervention du Belge Philippe Charlès.
Oui. Sa fille a une belle carrière littéraire aussi.
Voilà.
Et donc, ouais. Le Parlement de Paris essentiellement, soutenu peut-être par un certain nombre de grands du Royaume, ont bloqué ces réformes-là. Et donc, il est arrivé un moment où la goutte d'eau a fait déborder le vase. Parce que les réformes étaient bloquées. Alors aujourd'hui, on peut citer une loi importante qui est bien connue, c'est celle sur l'immigration. Cette loi-là était manifestement soutenue par beaucoup de monde en France. D'après ce qu'on a pu lire, il y avait 70%, je crois, des gens qui le soutenaient. C'est passé au Parlement de manière apparemment tout à fait correcte. Et aujourd'hui, c'est un point important. Les questions d'immigration, on en parle partout maintenant, quel que soit le parti. On en parle partout. Donc c'est un point important. Ça tentait, il n'est pas dit que ça résolvait tous les problèmes, mais enfin, c'était une tentative de traitement du dossier. Le Conseil constitutionnel l'a censuré. Et alors, ce qui est intéressant dans cette affaire de censure, qui rejoint la toute récente censure sur les zones, sur les ZFE, parce que c'est la même technique qui a été utilisée. Conseil constitutionnel, alors là, je me mets un peu dans sa tête, il se dit, censurer une loi qui est approuvée par 70 ou 80% des Français, qui a été votée par le Parlement, largement, ou pas d'ailleurs, eh bien, c'est quand même ennuyeux. Donc, plutôt que de prendre frontalement le dossier, en statuant sur le fond, je vais utiliser une technique formelle. Et c'est là qu'il a utilisé... Il sort le cavalier législatif.
L'article 45.
L'article 45, effectivement, qui est d'origine dans la Constitution, qui avait déjà été arrangé par le Conseil constitutionnel par lui-même. Pour faire plaisir, on avait fait une modification constitutionnelle de cet article en 2008, mais ça ne suffisait pas encore, et donc le Conseil constitutionnel recommencer à faire son propre article 45. Et grâce à cette manipulation de l'article 45, il a pu facilement censurer cette loi sur l'immigration et cette loi sur les ZFE.
Allez, on va continuer à parler avec vous. Philippe Charlès, vous aviez une question ?
Oui. Oui. Moi, j'avais une question parce que j'étais un petit peu étonné par le timing, tout en ne connaissant pas du tout le sujet. J'avais quand même l'impression que, justement, avant la Révolution française, le pouvoir des juges était moindre, puisqu'il n'y avait pas de séparation des pouvoirs, que Montesquieu a introduit l'idée de séparation des pouvoirs, et qu'un des bénéfices de la Révolution française, c'est normalement la séparation des pouvoirs. Or, vous semblez dire que le juge avait beaucoup plus de pouvoir avant qu'après la Révolution française, donc je comprends mal.
Ah oui, 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 très nettement. Ce que vous dites de Montesquieu, bon, dans ses écrits, c'est un vœu.
Quoi, la séparation des pouvoirs.
Oui, c'est un vœu.
Mais elle n'existait pas de son époque, on est d'accord. Le roi jugeait.
Oui, ben, c'est-à-dire que, alors, on reprend l'histoire là où on l'a laissé à l'époque de Saint-Louis, par exemple. Le fondement essentiel du pouvoir royal, c'est la justice. C'est pas tellement un législateur ou un chef des armées, c'est un juge, la première chose. Et au fil des années, à partir du moment où le domaine royal s'est élargi, il n'a plus pu être seul à rendre la justice, même avec son conseil. Et donc, il y a eu création de juges, que l'on a appelé parlement, du fait de l'endroit géographique où ils étaient. Et au fur et à mesure que le domaine royal s'étendait, eh bien, il y a eu des parlements qui ont été créés pour rendre la justice dans ces nouveaux domaines. Alors, le Parlement avait deux fonctions essentielles. La première, c'était de rendre la justice.
Vous racontez très bien ça dans votre livre.
Voilà. Hein? Alors, voilà. Je résume. Donc, c'était de rendre la justice. Et la deuxième, c'était d'enregistrer les édits. Les édits, c'est l'équivalent des lois. Ce qu'on appelle aujourd'hui promulgation. C'est le président de la République qui promulgue les lois. Ce qui veut dire que si elle n'est pas promulguée, elle ne peut pas s'appliquer. Bien là, c'était le Parlement. S'il n'enregistrait pas l'édit, cet édit ne pouvait pas s'appliquer. C'est pour ça qu'il avait le sceau, et c'est grâce au sceau, le garde des sceaux, qu'il permettait d'appliquer ça. Ça, c'est un des éléments. Mais sinon, je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui montrent que son pouvoir, aussi bien de justice que son pouvoir politique, a beaucoup grandi. Tant qu'il était dans les pas du roi, ça n'a pas posé trop de problèmes. Lorsqu'il s'est dit, le Parlement anglais est quand même représentant du peuple, il fait beaucoup de choses, nous allons faire pareil. À ce moment-là, eh bien, c'était une sorte de
contre-pouvoir, de contre,
oui, qui n'était pas, il n'avait pas le droit de faire ça en quelque sorte. Il voulait s'arroger cela. Alors, les révolutionnaires, qui souvent étaient avocats, qui ont vu comment les choses se passaient, se sont dit le pouvoir royal a été battu en brèche par les parlements. Maintenant, ce n'est plus le pouvoir royal, c'est le pouvoir du peuple. Mais le pouvoir du peuple, ça ne sera pas pareil. Nous n'allons pas faire les mêmes choses. Nous n'allons pas subir les mêmes choses. Et donc, le juge, à partir de 1790, d'ailleurs, est devenu un subordonné, en quelque sorte.
Vous dites qu'ils mettent au pas les juges. Hein.
Ça, c'est une expression qui a été utilisée. Enfin, je ne sais plus quelle est la citation, mais c'est une citation, effectivement. Non, le
pouvoir ne vient plus du roi, il vient du peuple, et donc
le peuple ne va pas se laisser faire.
qui prétendent représenter le peuple. Voilà.
Le roi s'est laissé faire, le peuple ne se laissera pas faire.
Voilà. Et donc ils perdent leur pouvoir, les juges, au moment de la révolution. C'est quand même
totalement.
Alors que moi, j'aurais cru le contraire.
Bah oui, on aurait pensé, tout le monde penserait l'inverse. C'est tout à fait l'inverse. Très bien avec
tout à fait. Une anecdote, je ne sais pas si elle est dans le livre, c'est Robert de Jouvenel qui avait écrit dans un, je ne me rappelle plus le titre du livre, il disait que dans ce collège, il avait des camarades, alors quand il leur demandait « qu'est-ce que tu veux devenir ?», il y en a qui disaient « je veux être officier », l'autre « avocat », le troisième « médecin ». Personne ne voulait être magistrat. Et ça montrait bien le niveau de rabaissement ou d'abaissement que les magistrats ont connu au 19e et même au début du 20e siècle. Ils étaient mal considérés, mal payés. Et donc, il y a eu ensuite, c'était une matière, si vous voulez, c'est une justification pour vouloir une revanche.
Absolument. Allez, François Guéranger, nous sommes avec vous. Vous êtes magistrat avocat à la Cour. Vous avez écrit La Revanche des juges, histoire d'une reconquête chez l'artilleur. Tiens, on va continuer à parler de l'histoire et de la manière dont le pouvoir des juges a évolué avec le temps.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Damien Chalamel et Gérard Gachet qui sont avec nous, comme d'habitude, nos chroniqueurs. Le Code civil, dites-vous, bride les juges qui appliquent la loi. Ça, c'est un grand changement avec la Révolution et les révolutionnaires. Alors, ils rabaissent singulièrement les juges qui ont connu une longue traversée du désert. Jusqu'à quand est-ce que vous la faites durer, cette traversée du désert des juges? Et à partir de, si j'ai bien compris, ils reprennent un peu de pouvoir à partir de 58.
C'est bien ça. Alors, donc, la traversée du désert, on vient d'en parler, puisque c'est le fait que le juge est dans une position subordonnée. Petit à petit, son rôle augmente parce que les conditions économiques sur une société changent. Mais il y a vraiment, pour moi, deux ou trois événements importants et qui vont lui permettre de reprendre du pouvoir. La première, c'est peut-être en 1950, la Convention européenne des droits de l'homme. Alors je dis 1950, mais elle n'a été ratifiée qu'en 1974 par Alain Poher. On peut d'ailleurs se demander si un président intérimaire peut ratifier une convention d'une importance considérable dont on voit les conséquences aujourd'hui. Je pose la question, je n'ai pas la réponse, mais je me pose la question. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est la Constitution de 1958 qui crée le Conseil constitutionnel, et là, on va y revenir.
Ouais.
Et la troisième, c'est l'Union européenne qui va créer un droit qui, petit à petit, va s'imposer directement aux peuples, aux divers peuples, notamment en France. Ce n'est pas toujours le cas dans les autres pays, mais notamment en France.
Gérard Gachet avait une question pour vous.
Oui, elle est un petit peu longue, pardonnez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, dans cette reconquête de pouvoir par les juges, trois actions qui sont un peu coordonnées ou complétées? Une action politique, entre guillemets, de certains juges français qu'on a pu voir et qu'on voit par exemple, qu'on a vu et qu'on revoit par exemple dans le procès de Nicolas Sarkozy, où des juges, certains juges n'ont manifestement pas apprécié ou pas digéré les petits pois dont ils avaient été traités par Nicolas Sarkozy. Je pense surtout que certains n'ont pas oublié la réforme de la carte judiciaire qui avait quand même été menée au pas de charge par Rachida Dati, qui était à l'époque la garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. Je pense que ça, c'est resté un traumatisme chez un certain nombre de magistrats. Le deuxième niveau d'action qui ont contribué à creuser un peu ce fossé entre les juges et peut-être la France ou la nation, c'est l'action d'organismes français, vous en avez parlé, tels le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, qui s'arrogent, on l'a vu, de véritables pouvoirs législatifs. On vient de le voir avec le Conseil constitutionnel qui a rétabli les zones à faible émission, les ZFE, qui avaient pourtant été supprimées de façon très, très nette par le Parlement. Et enfin, le troisième niveau, c'est l'action des organismes supranationaux, notamment européens, dont vous avez parlé, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme. Je reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'action de la Cour européenne des droits de l'homme à propos de l'affaire Ménard, puisque Robert Ménard risque à l'automne 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et la perte de son fauteuil de maire de Béziers pour avoir refusé de marier une personne qui était frappée d'une obligation de quitter le territoire français. C'était un dossier que je connais bien puisque je l'ai moi-même vécu comme élu local il y a quelques années, etc. Et effectivement, le rôle d'Adlante, de la Commission européenne des droits de l'homme, est fondamental puisque moi, il y a quelques années, j'avais été trouvé le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelait Charles Pasqua, pour lui dire, j'avais amené un dossier comme ça, de mariage de gens sous OQTF ou en situation irrégulière sur le territoire que j'avais été obligé de célébrer en tant qu'adjoint au maire d'un arrondissement de Paris. Et il m'avait dit, laissez-moi ça, on va regarder et revenez me voir dans 15 jours, m'avait dit Charles Pasqua. Et au bout de 15 jours, il m'avait dit, voilà, effectivement, nous sommes contraints par la Commission européenne des droits de l'homme qui reconnaît le droit au mariage sans spécifier la condition que la personne doit être en situation régulière sur le territoire. Mais pourquoi est-ce que ce n'était pas spécifié ? Vous l'avez dit, parce qu'elle a été écrite en 1950. Cette Convention européenne des droits de l'homme, même si la France ne la ratifie plus tard, mais elle a été écrite dans les années 50, où le problème de la régularité des gens sur le territoire ne se posait pas. Il n'y avait pas le problème d'immigration massive, clandestine.
Et en réalité,
pourquoi est-ce qu'il y avait le droit au mariage ? Ça ne s'intéressait pas du tout aux immigrés, ça concernait les personnes qui étaient en prison et qui n'avaient pas le droit à l'époque de se marier. Mmh. Et le législateur avait considéré que leur donner le droit au mariage était peut-être une garantie de réinsertion plus forte après leur sortie de prison, etc. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y avait le droit au mariage qui était garanti par la CEDH. Donc finalement, est-ce que ces trois actions des juges français, d'organismes comme le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et les organismes européens et supranationaux, n'a pas contribué à creuser un fossé énorme entre la justice et les juges, notamment, et le peuple français.
Vaste question.
François Guéranger, vous avez une minute.
Bien. Hein? On peut prendre chaque point l'un après l'autre. Le premier, c'est les questions politiques. Alors, on en a parlé tout à l'heure, le juge a une marge de manœuvre très très importante. Et donc, les trois personnes qui sont les magistrats du tribunal correctionnel ont une grande marge de manœuvre. Et par ailleurs, eux, ils ont le dossier, nous, on ne l'a pas. Ce qui est quand même une différence tout à fait forte. Et je peux vous assurer d'expérience que entre ce que j'entends à l'audience et ce que je vois dans le dossier ensuite, il y a beaucoup de différences. Donc, lorsque ce qu'on entend à la télévision, et puis si on a le dossier, on ne dira pas la même chose. Cela dit, je pars du principe que les juges rendent toujours une décision judiciaire, en se fondant sur le droit, sachant qu'il peut faire beaucoup de choses avec le droit. Une incidente, vous vous rappelez, il y a quelques années, un magistrat qui avait écrit une lettre, qui s'appelait Baudot, et qui avait écrit une lettre à toute une promotion de l'ENM. Qui avait fait scandale parce qu'il y avait des choses qui...
Il faisait à gauche, non, c'est ça ?
Oui, oui c'est ça. Faisait pas trop. Mais il avait quand même dit une chose, la loi, elle sera ce que vous en ferez. Et il n'avait pas tort. Donc, tout ça pour dire que la marge de manœuvre du juge est très importante. Lorsque le juge juge un homme politique, il le juge en droit, il n'y a pas de doute, mais il se trouve qu'il y a un glissement qui se fait vers le côté politique, et donc il y a une sorte d'effet secondaire qui fait qu'on va interpréter la décision juridique comme étant une décision politique. Je ne peux pas vraiment aller plus loin ne connaissant pas le dossier et n'étant pas dans la tête des juges en question qui ont été traités de petits pois ou autres. Ça, je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment comme ça que les choses se passent. Alors que certains soient plus politisés que d'autres, c'est comme dans la société, bien entendu. Normalement, ils doivent lutter contre, mais on ne peut pas faire autrement. Ça, c'était la première question. La deuxième, c'est sur le Conseil constitutionnel.
Les grands juges.
Les grands juges, d'une manière générale.
La Conseil constitutionnel.
Excellente expression. Je ne sais pas si c'est, c'est vraiment la vôtre ou vous l'avez cette expression, les grands juges.
Non, ben, c'est en écrivant, je me suis dit, plutôt, je me suis dit, plutôt que d'écrire chaque fois Conseil constitutionnel, etc., je me dis, je vais les appeler les grands juges, les comme grands ça, juges. Ça ira plus vite.
C'est ça
l'explication. Alors, le Conseil constitutionnel. On va peut-être passer quelques minutes dessus. Il y a eu deux époques. La première, celle de 1958, où il avait un rôle assez restreint, puisqu'il s'occupait des élections, et puis de s'assurer...
Oui, ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est un débat qui a lieu tous les jours sur le rôle du Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut le remettre dans sa case, on va dire, ou est-ce qu'il a pris un rôle excessif? Est-ce qu'on peut continuer avec ça?
Ah ben là, on est en plein dedans. On va en parler, là. Voilà, on va en parler parce que c'est effectivement un point essentiel. Ouais. Et il avait le deuxième rôle, c'était de s'assurer que le Parlement n'empiétait pas sur le travail du gouvernement, puisqu'on avait séparé la loi en deux, la loi et le règlement. Bon. Et puis, en 1971, le 16 juillet, il a fait un vrai coup d'État, juridique. Tout le monde le reconnaît. Hein. Enfin, tout le monde.
Là, c'est une expression de Robert Badinter.
Exactement, exactement. Donc, on peut la reprendre. Mmh. Et ce qu'il a fait, il a dit, ben, jusqu'à présent, le droit, c'était ça. Enfin, c'était le droit qui émane du Parlement, c'était le droit qui émane du gouvernement, avec les règlements. Mais désormais, je vais l'élargir et je vais intégrer dans le droit les grands principes qui se trouvent dans les... préambule de la Constitution de 1946 repris en 1958, ainsi que la Déclaration des droits de l'homme. Je les reprends, ça va être du droit. Dans la mesure où j'étais compétent pour le droit classique, je vais être compétent maintenant pour le droit classique, plus ce nouveau droit. Or, qu'est-ce qu'il est ce nouveau droit? Il est particulièrement extensif, il est flou, il est souvent contradictoire et il est particulièrement modulable. Lorsque vous avez déjà, en tant que juge, beaucoup de pouvoir en soi, et qu'en plus vous disposez d'un droit particulièrement flou et extensible, vous augmentez énormément votre pouvoir. C'est ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel. Et il est rejoint en ça, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que quand vous lisez, vous parliez tout à l'heure du mariage, je crois que vous faisiez référence vraisemblablement à l'article 8, qui dit que tout homme a droit à mener une vie...
Respect à la vie privée.
Le respect de sa vie privée, familiale, etc. À partir de là, on peut tout dire. Mener le droit. Oui, d'ailleurs,
ça a été une raison, d'aspiration, immigration.
Cet article 8 est un phénomène juridique, incroyable. Parce qu'on fait tout ce qu'on veut. D'ailleurs, la question a été posée à la CEDH, et elle a répondu, ah ben non, moi je peux pas on ne peut pas définir l'article 8, on ne lui fixe pas de limite. À partir de là, s'il n'y a pas de limite au droit, vous faites ce que vous voulez. Mmh. Donc, ces grands juges, essentiellement, cela plus la CJUE. Alors, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a une autre particularité, c'est qu'elle a en vue la construction européenne et vraisemblablement une construction fédéraliste. À partir de là, elle rend ce qu'on appelle des décisions téléologiques, c'est-à-dire qu'elle ne s'attache pas à la lettre du droit ou au cas particulier, mais elle se dit... L'objectif final, c'est d'arriver à la fédération, et donc la décision que je vais rendre... prend en compte cet objectif. Donc, vous voyez, chaque cour a sa façon de voir. Et donc, tous ces grands juges, en définitive, appliquant le droit, on ne peut pas dire qu'ils ne l'appliquent pas. Ils appliquent le droit. Mais c'est un droit tellement flou, tellement mouvant, qu'ils ont une marge de manœuvre considérable. Mmh. Le troisième point, peut-être que c'était... Ah oui, le mariage. Alors, le mariage, oui. Ouais. On a entendu l'autre jour le garde des Sceaux qui disait « on va faire une loi ». Pour faire en sorte que les mères qui refusent de marier un OQTF ne soient pas sanctionnées. Mais il me semble bien que lorsqu'on dit que cette obligation de marier est une obligation constitutionnelle, en réalité, c'est une décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 qui dit que la liberté de se marier... Se marier fait partie des libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme. Donc la liberté de se marier est une des libertés des droits de l'homme. À partir du moment où c'est le cas, elle appelle ça constitutionnel. Mais,
c'est comme ça qu'on a des migrants qui font des faux mariages pour arriver à se faire régulariser.
Ça peut être utilisé comme ça, mais là où je voulais en venir, c'est que s'il y a une loi, imaginons qu'elle soit votée, si le Conseil constitutionnel ne change pas d'avis... il va dire je censure la loi en question parce que j'ai décidé que c'était une liberté fondamentale.
Et que cette loi serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme.
Alors, en plus,
tout est verrouillé.
Enfin, hein, il ne se prononce pas là-dessus, le Conseil constitutionnel, mais sa propre jurisprudence lui suffit. Mais alors, ensuite, on pourrait effectivement, dans un cas d'espèce, solliciter. Alors, c'est beaucoup plus facile parce que c'est le juge de base qui contre la conventionnalité est contrôlé sur la base de l'article 8 que vous citez.
Damien Chalamet.
Ouais, moi, j'ai une réponse, un commentaire à propos de la question de Gérard et après une question à notre invité. Alors, ce que montre bien également notre invité, c'est que il y a un prisme idéologique qui est celui de l'idéologie des droits de l'homme et qui imprègne en réalité ces grands juges et qui font que effectivement maintenant on converge vers un corsetage de la souveraineté populaire. On ne rappellera jamais assez souvent que le principe de la République française, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On en est de plus en plus loin. Alors moi, la question que j'ai envie de poser à notre invité, c'est la question de Lénine. C'est que faire ? Alors, parce que vous parlez du lit de justice. Alors on peut rappeler ce que c'est que le lit de justice, ce que propose le professeur Rouvillois, pour ceux qui connaissent, qui est souvent, je crois, invité sur cette antenne. Et effectivement, on arrive à une situation de blocage de celle que connaissait Louis XV, qui n'arrivait pas à passer ses réformes. Alors lui, il était en tant que souverain. Bah maintenant, le peuple, c'est le souverain. Mais on voit bien que ce pauvre peuple, ces pauvres peuples européens en particulier, leur expression est de plus en plus bridée par ces grands juges et leur idéologie. Et alors, la question, effectivement, que faire
Alors, que faire, François Guéranger, magistrat avocat à la Cour, vous signez la revanche des juges, histoire d'une reconquête chez l'artilleur, juste après ceci.